Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
On assiste souvent à des opérations de démolition des constructions anarchiques à travers le pays. Cela suscite souvent la colère, le désarroi chez les victimes, surtout ceux qui affirment, ceux qui disent qu'ils possèdent les titres de propriété en bonne et due forme délivrés par les services de l'État. Alors, quelle est la procédure à suivre avant de démolir les constructions dites anarchiques? Et pour la personne qui est lésée, qui est victime et qui estime qu'elle avait des documents en bonne et due forme, alors que faire dans ce cas-là pour entrer dans ses droits? Voilà, on va parler de toutes ces questions, répondre à toutes ces questions dans quelques instants avec notre invité, Justin Mouhou, magistrat au parquet des grandes instances à Kinshasa Gombe. Monsieur Justin Mouhou, bonjour.
Bonjour.
Le bon début de semaine.
Merci.
Eh bien, on parle aujourd'hui de la procédure à suivre pour démolir une construction anarchique. Elle peut ne pas être anarchique, mais une construction tout court. Alors, et quelles sont les dispositions légales à ce sujet?
Oui, bon, merci pour la question. Déjà, quand on parle d'une construction anarchique, il faut s'entendre par là une construction qui a été érigée en violation des dispositions légales. Et les dispositions légales ici, on les trouve, c'est soit les dispositions impératives de la loi foncière ou les dispositions, les normes urbanistiques. Lorsque l'État, on doit partir de là, il y a une loi que nous appelons la loi dite foncière. Et cette loi a fait d'abord de l'État. L'État et le sous-sol, le sol et le sous-sol appartient à l'État.
La loi Bakashika.
Oui, la loi Bakashika. Et avec cette loi, il y a des personnes que l'État désigne, une administration foncière, qui sont habilitées à pouvoir octroyer ou passer des contrats au nom de la République. La République, dans la gestion de ce que nous appelons le domaine privé de l'État. Ces domaines privés de l'État peuvent faire l'objet de contrats. Et les personnes habilitées à passer ces contrats-là, ce sont les conservateurs de titres immobiliers. Alors, en dehors des conservateurs de titres immobiliers, il y a plusieurs autorités qui peuvent passer ces contrats-là. C'est notamment quand vous êtes en province, on vous parle pour certaines terres rurales, on vous parle du gouverneur de province. Et à l'instar des autres provinces, la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville de Kinshasa n'est pas une autorité de terre. Il ne peut pas octroyer une terre à quelqu'un ici, dans la ville de Kinshasa. Cette prérogative a été dévolue au ministre des Affaires foncières, qui peut aujourd'hui, par rapport à toutes ces terres qui sont non urbanisées, qui se trouvent dans les terres que nous appelons les terres rurales, qui peuvent être concédées par rapport à l'amphithéose pour des besoins de l'agriculture, par rapport au nombre d'hectares, ça demande à ce que, soit c'est le gouverneur, je crois la loi a permis jusqu'à ce que, en dehors du gouverneur de province, il y a le ministre des Affaires foncières ici à Kinshasa, il y a le président de la République, c'est par rapport à la superficie, et il y a le Parlement. Le Parlement qui peut concéder, passer un tel contrat lorsque nous sommes au-delà, par exemple, ça demande 200 hectares, je crois, ou au-delà de 100. Alors, tout ça, c'est réglementé chez nous. Alors, ces dispositions impératives, lorsque vous les violez, d'abord, l'article 204 dit seulement ceci, est nul tout contrat qui sera conclu en violation des dispositions impératives.
Alors, monsieur Guillaume, pourquoi on laisse souvent les gens construire? Vous verrez dans un quartier, voilà, les gens construisent des très belles maisons et puis on laisse faire, et à un moment donné, lorsqu'ils sont presque à la fin de leurs travaux, bien voilà, les bulldozers s'amènent pour détruire les constructions.
C'est pour dire quoi? Quand vous prenez par exemple la ville de Kinshasa, elle a été déjà urbanisée. Ce qui fait que la ville ayant été déjà urbanisée, les espaces que nous pouvons appeler les espaces verts font partie du plan d'aménagement de la ville de Kinshasa. Ce sont des espaces qui font partie du plan urbanistique. Donc aujourd'hui, ces espaces-là ne peuvent pas faire l'objet d'un quelconque contrat qu'un conservateur peut signer. S'il arrive que ce conservateur signe un tel contrat, la loi ne le laisse pas circuler comme un bon citoyen. Parce qu'on peut le considérer que c'est un monsieur
qu'il faut arrêter tout de suite.
Oui, mais il y a l'article 205 de la loi foncière qui l'expose déjà à des sanctions.
Mais pourquoi on laisse d'abord faire? Les gens ont acheté les terrains, on les laisse construire, ils ont tout.
Non,
fait.
Généralement.
Et c'est quoi? Lorsqu'ils sont prêts, ils ont déjà investi.
J'aurais souhaité que, en tant qu'aussi journaliste, que vous menez aussi parfois des enquêtes. Il y a des constructions anarchiques qui ne sont pas couvertes. Hein, par le certificat, parce que l'autorité ayant constaté qu'il ne peut pas délivrer un certificat. Mais comme les Congolais, dans ses habitudes, ils supposent qu'on peut toujours, non, on peut changer les autorités, on peut, il construit anarchiquement. Avec comme conséquence que lorsque l'autorité va prendre la décision, c'est tout le monde qui crie, voilà pourquoi on a détruit. Mais on a détruit d'ailleurs l'autorité congolaise, et encore, comment dirais-je, il est encore clément. Parce qu'il détruit à ses frais. Alors que la loi dit, c'est lui qui a construit d'une manière anarchique. Lorsque l'administration procède à la démolition, c'est à ses frais à lui. Donc c'est aux frais de celui-là qui a mal construit ou qui a construit en violation des dispositions impératives parce que le soubassement de son contrat, il est nul. Et la nullité est absolue. Alors, lorsque cette nullité est déjà absolue par le fait de la loi, donc tout ce qui, c'est comme quelqu'un qui construit sur du sable.
Si cette personne détient les documents, le certificat, tous les documents,
J'ai dit ceci. Ces documents-là ont été établis en violation des dispositions impératives ou en violation des règles urbanistiques.
Il y a des documents émis par le service de l'État.
Mais cela veut dire, la personne qui a émis ces documents-là, cette personne est supposée faire l'objet de poursuites. C'est question que ces personnes-là dénoncent. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a élu droit de citer chez nous ici. C'est le fait que, bon, on peut permuter le conservateur, on peut le révoquer, mais il n'y a pas d'action pénale à l'égard de ces personnes. Parce que l'article 205 dit ceci, sera passible de 6 mois à 5 ans. Et d'une amende de 50 francs congolais, ou de ces peines seulement, l'autorité qui aura conclu, au nom de la personne publique, propriétaire, un contrat visé à l'article 204. L'article 204 de la loi foncière, c'est cet article qui dit, tout contrat conclu en violation des dispositions impératives de la loi foncière est nul.
Bien.
On va conclure aussi en violation des règles urbanistiques est nul.
Donc cela veut dire déjà à ce niveau-là, il faudrait déjà savoir que le conservateur qui vous a délivré un tel certificat d'enregistrement
est lui-même passible de peines qui sont prévues à l'article 205.
Il faut dénoncer. On revient tout à l'heure, le temps d'accueillir les auditeurs. Quelle procédure suivre pour démolir une construction anarchique? Des questions de préoccupation, appelez-nous au 081-890-63-94.
Chaque jour, la fréquence de la TNU le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Nos tours de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Quelle procédure suivra pour demander une construction anarchique? Blanchard Louana, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, Jolie.
On vous écoute.
Moi, j'ai des questions. Elles sont les suivantes. La première est de savoir à qui la loi donne. Ou quoi? À qui la loi reconnaît les prérogatives de pouvoir procéder à l'opération de démolition anarchique, de construction anarchique? Parce qu'on voit tantôt que les gouverneurs de province, les ministres de l'Intérieur, le maire de la ville, les magistrats, finalement, on ne comprend pas. Mmh. Et la dernière question est de savoir qui donne l'autorisation de bâtir les maisons dans des différents milliers de trouvants au Congo.
Voilà. Merci, bon Charles. On a Christian Gabou de Pandroma. Bonjour.
Bonjour, je dis pas seulement bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Ma question serait de savoir à qui doit appartenir la maison, soit en agissement construit. Est-ce que celui qui l'a construit n'a pas le droit, ou puis celui de la parcelle?
Vous voulez dire à qui appartient une construction en Afrique?
Oui, oui.
Mais qu'est-ce que vous voulez savoir exactement?
Je dis, parce que la construction en Afrique va à la démolition maintenant.
Mmh.
Alors, quelle peut être la part de celui qui l'a construit?
La part de la personne dans le processus de démolition, la responsabilité.
Voilà.
Merci. Azuma Amouti nous appelle de Kindou. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capri.
On vous écoute, Azuma.
Avant que je pose mes deux petites questions, puisque ce sujet intéresse la ville de Kindou, pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui a passé ici chez nous et ça a créé même des conflits entre notre gouverneur de la province, ainsi que les conservateurs des titres immobiliers.
Mmh.
Pourquoi je le dis aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une construction en argile au quartier RVA. Cette construction-là, le gouverneur de la province avait pris une décision et on a démoli presque les maisons qui étaient construites là-bas. Maintenant, mmh, je voulais poser une question et savoir, celui qui avait construit un argilement dans un quartier, il détient ces documents possibles qui justifient qu'il avait acheté ça. Est-ce qu'on peut l'indemniser ou comment? Puisqu'il avait construit, tel que nous l'avions vu ici chez nous à Kindou, il y avait un hôtel là-bas bien construit. Le monsieur, l'autre là, j'ignore son nom, et on a fait démoli. Maintenant, on ne sait pas celui qui va l'indemniser. Je voulais poser d'une façon bref, qui peut l'indemniser s'il détient les documents, il a les documents possibles.
Mmh.
Et je voulais aussi poser l'invité une autre question par rapport à ce sujet.
Oui, rapidement, Adi. Désolé, il n'est plus en ligne. Vous avez suivi Blanchard Blanda.
Oui.
Vous posez la question de savoir à qui la loi reconnaît les prérogatives de démolir. Qui doit donner l'ordre de démolir
Oui, bon, cela veut dire on a parlé de l'administration. Ici, il faut s'entendre par l'administration. L'administration, ici, nous voyons plus l'administration foncière, en fait, qui est l'autorité, qui est l'administration en cette matière-là. Mais l'autorité politico-administrative, en vertu de ses pouvoirs, vous savez que l'autorité politico-administrative est revêtue de trois pouvoirs. Il est revêtu du pouvoir de délégation, il est revêtu du pouvoir de réquisition et le pouvoir réglementaire. Donc, en vertu du pouvoir réglementaire, il peut se fondant sur les textes lorsque les faits sont dénoncés, parce que c'est lui qui a la gestion de la cité. Et il peut ordonner la destruction. Il peut arriver aussi que la destruction soit ordonnée par les cours et tribunaux. Parce que une contestation peut arriver devant les cours et tribunaux, et les cours et tribunaux ordonnent cette destruction. Lorsque cette destruction est judiciaire, nous savons que c'est à la charge de la personne. Et cela me permet de répondre à la question à rapport avec l'indemnisation. Mmh. Il n'y a pas d'indemnisation lorsque vous avez construit anarchiquement. D'abord, il faudrait que les spectateurs sachent, sachent que c'est lui qui construit anarchiquement. Lorsque on doit décider de démolir, c'est à ses frais que ça se fait. Ce n'est pas aux frais de l'État. Non, c'est à ses frais. Alors, lorsque on dit déjà, la loi dit que ça doit être fait à ses frais, parce qu'on lui laisse le temps pour qu'il puisse lui-même démolir ce qu'il a construit anarchiquement, de sorte que
il récupère
comme matériel de construction. Mais lorsqu'il ne le fait pas, lorsque l'État amène les bulldozers sur le terrain, il doit savoir que c'est à ses frais qu'on est en train de démolir.
Mais dans quelles conditions l'État peut indemniser?
Non, l'État ne peut indemniser que lorsqu'il y a eu, par exemple, expropriation pour cause d'utilité publique. Donc, et la loi a déjà prévu des mécanismes. Lorsque, par exemple, l'État, pour cause d'utilité publique, veut, par exemple, construire, je peux donner un cas, à supposer qu'on doit construire un stade je prends un stade en Gili ou je ne sais pas dans la commune de Kimasek.
Où il y a besoin d'élargir une voie.
On doit élargir une voie qui n'était pas prévue. Parce qu'ici, il y a un problème dans la ville de Kinshasa. Quand vous prenez le plan d'aménagement, c'est pour cela qu'il y a même des dispositions, toutefois que vous violez les dispositions en rapport avec le plan d'aménagement. Il y a des gens qui ont construit, qui ont réduit la route. Alors que les plans d'aménagement supposent que cette route, je vais vous donner les cas. Quand vous prenez par exemple l'avenue de l'université, qui quitte à partir de Sengwe, qui doit arriver jusqu'à Ngaba, aller jusqu'à l'université.
Oui.
Là, le plan d'aménagement de la ville a prévu qu'il y ait un boulevard. C'est le fait que les gens qui ont construit vers Bakala, ainsi de suite, qui ont réduit la route, donc le jour que l'État voudra rentrer dans le plan d'aménagement, parce que vous
l'avez violé. Le plan n'est pas vulgarisé.
Non, le plan est, moi, ce n'est pas que le plan, on doit le mettre à la disposition. Le plan, on le met à la disposition de la personne qui sollicite. Vous savez, la terre, lorsqu'on veut avoir une parcelle, on formule une demande. C'est pour cela que une façon aussi pour moi de répondre par rapport à l'auditeur de Kindu, hein, si aujourd'hui monsieur a construit un hôtel sur l'espace déjà, parce que les conservateurs n'ont pas de droit sur une terre déjà urbanisée. Par exemple, un lopin de terre, je peux prendre le rond-point ou je ne sais pas quel espace, qu'on peut appeler espace vert, ça fait partie du plan d'aménagement. Le conservateur ne peut pas créer un contrat sur ce plan-là.
Mais si on vous dit qu'il y a un lotissement, il y a...
Non, les lotissements, les conservateurs... Non, c'est là que je dis ici. Les conservateurs ne créent pas de lotissement. Le lotissement est créé par le ministre ayant les affaires foncières dans ses acquisitions. Et s'il doit pouvoir lotir, il doit prendre un arrêté portant création d'un lotissement. Et ce lotissement, ça doit toujours être dans le plan d'aménagement de la ville. Donc il faudrait que ça se fasse de concert avec le ministère d'urbanisme et habitat. De sorte que le plan d'aménagement, lorsqu'on crée le lotissement, on ne peut pas créer un lotissement comme ce fut le cas. Quand vous prenez la bande, quand vous êtes sur l'avenue Shaumba, vous voyez le camp Kokolo. Il a été déjà, il fait partie du plan d'aménagement de la ville de Kinshasa.
Bien, on y revient tout à l'heure, on a accueilli trois auditeurs, Omar Kigalo de Kinshasa, Freddy Kabamba de Lubumbashi, et Jean-Bertin Abukou de Mbandaka. Omar Kigalo, bonjour.
Exactement.
On vous écoute, Omar.
Allô?
Oui, bonjour Omar, on vous écoute.
Oui, je suis très content de l'émission, mais je voudrais avant tout que l'invité puisse définir ce qu'on attache à contrat non conforme aux dispositions impératives. Parce que lorsqu'on parle, on parle en tant que technicien, alors qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Alors c'est seulement un contrat qui est conclu aux dispositions, au contraire aux dispositions impératives. Par exemple, lorsqu'un mineur contracte pour acheter un terrain, c'est un contrat nul. De même, lorsqu'on construit sur un terrain qui n'est pas permis par la loi. Alors ma préoccupation est la suivante. Lorsque le constructeur est de bonne foi, est-ce que le frais de démolition sont toujours à sa charge ou c'est l'État qui prend en charge? Donc lorsque celui qui construit a fait de bonne foi, on lui a délivré un certificat d'enregistrement, mais il ne savait pas que le terrain était anarchique. De deux, moi je voulais plus attaquer la cause que le fait. Dans la plupart des cas, il a été établi que ce sont les fonctionnaires, je citerai les conservateurs, qui délivrent de tels certificats. Et l'article 205 de la loi foncière punit tout fonctionnaire qui aura dressé un tel certificat.
Mmh.
Lui, attend au magistrat, a-t-il déjà reçu des cas où on est en train de sanctionner des personnes conservatrices qui auraient fait de tels cas? Voilà ma préoccupation, ma contribution jeudi, je vous remercie.
Merci. Frédéric Abamba de Lubumbashi, bonjour. Frédéric, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Bien, il n'est plus en ligne. Jean-Bertin a beaucoup de Mbandaka, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Oui, merci de m'avoir invité à intervenir. Et merci encore d'inviter les magistrats de la République démocratique du Congo. Parce que nous constatons ici que l'État congolais a tendance à stocker le pays des citoyens. Dans quel sens? Si vous voyez les ventes, s'il y a des constructions anarchiques, donc il y a aussi des ventes anarchiques. Pourquoi parce que la personne qui a construit sa maison, donc il avait reçu l'autorisation de construire au fait d'un service public de l'État. Il avait borné sa parcelle auprès d'un service public de l'État. Et après, quand on dit que c'est une construction anarchique, alors donc l'État congolais a tendance à escroquer les pays de citoyens. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait autorisé la personne de construire, c'est lui qui avait borné la parcelle, c'est lui qui avait donné l'autorisation de faire tout ce que ce soit. Alors après, on dit que c'est une construction anarchique. Ça, c'est nous sommes dans quel pays? Alors si le magistrat peut nous expliquer pourquoi c'est là, parce que s'il y a une construction anarchique, donc il y a aussi des votes anarchiques.
Merci Jean-Bertin à beaucoup de Mbandaka. Vous voulez participer, appelez-nous au 081-890-6394. Vraiment d'abord à la question des Blanchards rapidement qui demandait qui est censé donner l'autorisation de bâtir.
C'est bon, Blanchard qui nous a demandé. Oui, l'autorisation de bâtir est censée être donnée par l'administration urbaine, donc c'est le ministère d'Urbanisme et Habitat. Mmh. Et cela est réparti parce qu'il y a une taxe qui est payée. Et cette taxe-là, c'est par rapport à. C'est une taxe en même temps qui revient à la ville, en même temps c'est une taxe qui revient, non, c'est une taxe qui revient à des entités administratives décentralisées et aussi une taxe qui revient au gouvernement par rapport à la construction à pouvoir ériger. Mais de toute façon, c'est le ministère de l'Urbanisme et Habitat qui accorde cette autorisation de bâtir. Alors, vous ne pouvez pas penser, c'est pour dire quoi? L'autorisation de bâtir, on ne peut pas les délivrer si on n'a pas. Hein, c'est que cela que le plan d'aménagement, il est détenu par l'Urbanisme et l'Habitat. Je ne voudrais pas ici.
C'est pas de moralité.
On doit se dire parfois la vérité. Ce qui est vrai, c'est que ces services-là ne doivent pas être animés par des personnes de mauvaise moralité. Ces services doivent être animés par des personnes de bonne moralité qui sont censées accepter qu'ils ne peuvent pas violer intempestivement la loi. Et ici, ça fait mal lorsque les auditeurs supposent que l'État est en train d'escroquer. Vous voyez l'image que ces agents de l'administration foncière et des services d'urbanisme et d'habitat donnent à l'État. Alors que l'État n'est qu'une personne fictive. Hein, l'État est reconnu comme État par rapport aux personnes que nous appelons les préposés. Or, ces personnes-là sont les préposés, de par la loi, je vous l'ai dit. Et aujourd'hui, que les auditeurs sachent que la dénonciation est l'arme la plus redoutable. Il faut que les gens apprennent à dénoncer. Vous ne pouvez pas seulement rester, vous acceptez un contrat. D'ailleurs, pourquoi beaucoup de gens ne viennent pas dénoncer? Souvent, ces gens de contrats sont entourés.
Ça se négocie
avec les conservateurs, parfois on les fait en violation. Donc on accepte. Et souvent c'est le faux qui est à la base.
Mais si il y a une personne qui détient les vrais documents et que sa maison est.
Il ne pouvait même pas. Donc je voulais qu'on se mette d'accord. Ce monsieur-là n'a pas droit à détenir des documents dont le soubassement était un contrat nul. Parce que tout ce qu'il fait, je vous ai dit, que lorsque vous construisez en violation des normes impératives, ce contrat-là est nul.
Vous avez dit que le sceau de l'État, donc tout
oui, c'est pour cela que... Écoutez, oui. Vous savez qu'il y a des ministres qui ont créé des lotissements dans la ville de Kinshasa. Quand on parle du lotissement Tembe-Natembe ou bien vers l'hôpital du Cinquantenaire. Mais vous savez que l'hôpital du Cinquantenaire, déjà, il existait déjà une ordonnance qui avait déjà consacré cet espace-là. Donc, ce qui fait que lorsque une autorité, quel qu'en soit son rang, parce que c'est l'article 205, je mets qu'un auditeur est revenu sur ça. On interdit donc le conservateur qui établit un contrat, qui dresse un certificat d'enregistrement. Et il est vrai aussi qu'aujourd'hui, vous savez que le paraphe du procureur de la République est porté sur chaque certificat d'enregistrement. Et ce paraphe-là, il est porté parce qu'on amène déjà le... J'aurais souhaité que ce contrôle-là soit fait en aval. C'est plutôt que le procureur appose son paraphe après examen de tous les dossiers. Parce que si ces certificats-là se retrouvent être attaqués, parce que c'est un certificat qui est nul. Il est nul parce que le contrat de soubassement, il est nul. Il est nul et la nullité est absolue parce que c'est l'article 204 qui pose déjà les principes.
Ce n'est pas une nullité relative à aller négocier ou obtenir des valeurs.
Comment est-ce livré après la mise en valeur de...
Non, non, oui, la mise en valeur du terrain. Non, c'est pour dire que monsieur doit avoir obtenu une autorisation de bâtir, monsieur doit avoir obtenu un contrat de concession perpétuelle, oui. N'est-ce pas, hein? Or, vous êtes sans le savoir que les contrats de concession perpétuelle ne sont établis que sur une terre nue. Donc, il faut qu'il y ait un lotissement qui est créé. Alors, à ce moment-là, lorsqu'on crée le lotissement, il y a des plans urbanistiques, on commence maintenant à délivrer le contrat sur cette terre nue, qui appelle maintenant les conservateurs à signer ce contrat-là.
Bien, on va recevoir Malonga, on va y revenir. Malonga, vous êtes dans la province du Vendée. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Je dis que ça, moi.
Quelle est votre question, Malonga?
Ok, merci beaucoup. Je vous salue d'abord un autre intervenant qui est là.
Bonjour.
Bon, moi, je viens seulement au propos aussi de mes comparaisons, ceux qui sont déjà intervenus.
Oui.
Mais je vais ajouter ceci. Est-ce que, pour arrêter cette hémorragie qui, en tout cas, qui fait souffrir, nous, la population congolaise, est-ce qu'on ne peut pas arrêter aussi ceux qui signent tous ces documents que l'invité vient de dire là-bas? Puisque ce sont eux qui sont en connaissance et qui sont vraiment doués à la matière. Mais les acheteurs ne savent rien. Ils ont besoin seulement des parcelles. Ils ont besoin seulement d'avoir une portion de terre. Ils viennent, ils s'arrangent, même ils peuvent corrompre, ils peuvent faire n'importe quel moyen de s'emparer de la parcelle. Ça ne dit rien. Mais ce sont les donneurs de ces documents, les signataires, ce sont eux le premier fautif. Est-ce qu'il n'y a plus de juridiction qui peuvent commencer à arrêter ceux qui livrent ces documents à ces populations?
Merci, madame.
Aujourd'hui, on n'arrive pas à indemniser ces malheureuses populations.
Merci, Malonga.
Bon.
Oui, merci pour cette intervention. Omar Kigalo vous a posé la question de savoir si les constructeurs ont de bonne foi. Les frais de destruction, les démolitions seront toujours à sa charge ou pas? Alors, est-ce qu'il vous pose la question de savoir si vous avez déjà vu des conservateurs véreux être sanctionnés?
Oui, bon. S'agissant des constructeurs de bonne foi ou de mauvaise foi, ici, en ce qui concerne les constructions anarchiques, il n'y a pas un constructeur de bonne foi ou de mauvaise foi. Il y a tout simplement un constructeur qui a construit en violation des normes impératives et en violation des normes urbanistiques. Donc, c'est un anarchiste. Donc, on considère comme un hors-la-loi. Et il est hors-la-loi quand vous prenez l'article 206 de la loi foncière, dit « Les contrevenants ne pourra prétendre à aucune indemnisation à quelque titre que ce soit. » Donc, lorsque vous avez construit anarchiquement, vous ne pouvez pas prétendre à une quelconque indemnisation.
Mais maintenant, la personne qui vous a délivré les documents,
mais on peut lui présenter vous pouvez dénoncer ces faits, on les poursuit. Je disais ici, c'est par rapport aux poursuites que vous savez, en dehors des dénonciations, il peut y avoir des poursuites, la saisine d'office par le procureur de la République. Ici, c'est l'occasion pour demander au procureur de la République, qui sont les signataires souvent, qui paraffent les certificats d'enregistrement, qu'aujourd'hui, il serait mieux pour éviter tous ces cas ici, parce que lorsqu'on va détruire, on trouve quand même que les personnes ont des certificats. Mmh. Alors que les conservateurs n'auraient pas dû conclure ou dresser un certificat d'enregistrement. Mais quel certificat est paraphé par le procureur? Donc, on aurait mieux fait en posant déjà les actes en amont qu'en aval. Parce qu'en aval, la démolition vient. Mais en amont, on n'aurait même pas établi ces documents-là. Mmh. Et même si on constatait que le dossier vous parvient et vous constatez que le conservateur a violé les dispositions impératives, c'est au procureur d'initier même une saisine d'office et déférer cette personne-là, le conservateur ou n'importe quel fonctionnaire, même ministre de son rang.
Mais Omar, les ministres. Entendre Omar, on dirait qu'il y a l'impunité, il y a aucun conservateur qui a été sanctionné dans ce sens.
Bon, je ne serai pas tout de suite là, et n'étant pas chef de juridiction ou chef d'office pour parler de la politique d'un parquet ou d'une juridiction, pour dire que Parce que ces cas-là sont toujours portés à la connaissance des autorités judiciaires qui sont habilitées à saisir les cours et les tribunaux.
Justement, mais si cela n'est pas encore arrivé,
oui,
je vais exhorter toutes les personnes qui sont victimes du comportement de ces conservateurs. Ou lorsque vous allez devant les conservateurs, vous devez vous rassurer. Posez-lui toutes les questions possibles par rapport aux normes urbanistiques. Parce que, ou au moins, il faudrait quand même qu'on puisse sensibiliser les gens. J'ai appris qu'on sensibilise les gens pour obtenir, pour convertir les titres, pour obtenir ce petit cas d'enregistrement. Mais on sensibilise pas la population à respecter la foncière, surtout en ce qui concerne les dispositions d'intérêt.
Justement, vous merci. On s'arrête là pour aujourd'hui. On a pris cet état. Je rappelle que vous êtes magistrat au parquet des grandes instances de Kinshasa Gombe. On va vous retrouver une prochaine fois. Merci et bon début de semaine.